Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Et nous allons voir les versets 18 à 25. Matthieu chapitre 4. Nous commençons la lecture au verset 18. Et voici la parole de Dieu. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en France et en Occident, il y a plus en plus de personnes qui se disent végétariens. Les végétariens, en général, sont ceux qui excluent la viande de leur alimentation. Mais quand on regarde un peu plus près, il existe plusieurs régimes dits végétariens. Alors, bien sûr, il y a les végétariens stricts, les végétaliens, qui excluent tout ce qui provient de la production animale et de la sous-production animale, les œufs, les produits laitiers, le miel, les additifs alimentaires d'origine animale. Il y a ensuite les ovo-végétariens, des végétariens qui acceptent de manger des œufs. Il y a les lacto-végétariens, des végétariens qui autorisent les produits laitiers. Il y a les ovo-lacto-végétariens, des végétariens qui mangent des œufs et du produit laitier. Il y a les pesco-végétariens, des végétariens qui mangent du poisson. Il y a les polo-végétariens, des végétariens qui mangent du poulet. Et quand on regarde ces différentes appellations, je me suis dit que nous aussi, on pourrait devenir des végétariens. Les termes pesco et polo sont des mots latins pour désigner le poisson et la volaille. Et donc, si on veut dire devenir un végétarien qui mange de la viande, on va adapter un mot de la langue ancienne, d'une langue ancienne. On va prendre le verbe grec telo, par exemple, un verbe qui veut dire désirer, souhaiter. Et on va créer une nouvelle catégorie de végétariens, les telo-végétariens. C'est-à-dire des végétariens qui mangent de la viande quand ils le souhaitent. Alors ça peut faire sourire, mais les gens veulent une étiquette. Ils veulent une étiquette qui dit « Je suis quelqu'un qui a des principes stricts, je suis végétarien, je me discipline. » Mais ils ne sont pas tellement prêts à payer le prix de cette discipline. Et il y a quelque chose de semblable dans les évangiles. On voit de grandes foules qui suivent le Seigneur Jésus comme s'ils étaient ses disciples. Mais ils ne le suivent que lorsqu'ils en ont envie, que lorsque ça les arrange. Alors le Seigneur Jésus va appeler des vrais disciples. Il va donner des raisons pour être fidèles, pour le suivre, même lorsque cela coûte, comme cela nous a été dit tout à l'heure. Il appelle des disciples à lui. Et il appelle des gens à le suivre, non pas de manière distante, de temps à autre, mais à le suivre véritablement, à le suivre constamment, tous les jours. Mais le premier point qu'il faut souligner, c'est le contexte de cet appel. Et Jésus est allé en Galilée. On l'a déjà un peu dit la dernière fois, mais c'est bien de revenir. Le contexte, Matthieu le souligne en un passage très court dans les versets 12 et 13. Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Jean avait exercé son ministère dans le sud d'Israël, près du Jourdain. Il a appelé Israël à la repentance et il a baptisé ceux qui répondaient à cet appel. C'est là que Jésus s'est fait baptiser par Jean et que Jésus a commencé son ministère. Mais lorsque Jésus a appris l'arrestation de Jean, il est parti en Galilée. Il a vraiment commencé son ministère parmi ceux qui étaient humbles, parmi les étrangers, ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort. Et on l'a vu la dernière fois, Matthieu nous indique qu'il est allé dans le territoire qui appartenait autrefois aux tribus de Zabulon et de Nephtali, des tribus qui étaient rebelles, des tribus qui étaient infidèles. Et les habitants savaient très peu de choses maintenant au sujet de Dieu et de l'Alliance. Et le Seigneur Jésus est venu apporter la lumière de Dieu, un nouveau jour. La lumière est venue parmi ceux qui habitaient à l'ombre de la mort. Et dans toute la Galilée, le Seigneur a annoncé le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le verset 23 nous dit qu'il est allé prêcher la bonne nouvelle du royaume. La décision de Jésus de se concentrer sur la Galilée allait aussi préparer la mission parmi les païens. Jérusalem était sur les collines, un peu isolé, mais beaucoup de routes internationales de commerce passaient par la Galilée. Il y a un dicton qui disait « La Judée est sur la voie de nulle part, la Galilée est sur la voie de partout ». Cette mission allait venir un peu plus tard, cette mission vers le monde. Jésus a commencé son ministère en guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, toutes sortes de maladies, des paralysés, des personnes qui étaient affligées dans leur corps, affligées par des infirmités, ceux qui étaient possédés. Dans cette culture, ceux qui étaient très malades étaient aussi physiquement très pauvres. Il n'y avait pas de sécurité sociale comme nous, on peut connaître aujourd'hui. S'ils ne pouvaient pas travailler, ils s'appauvrissaient. Mais le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère parmi les pauvres, pas seulement les pauvres physiquement, mais ceux qui étaient pauvres spirituellement. Il n'a pas commencé son ministère parmi les religieux, parmi les sacrificateurs ou parmi les lévites. Il n'a pas commencé son ministère dans la capitale ou dans le temple, dans le centre du pouvoir ou dans le centre de la religion. Non, il a commencé parmi son ministère parmi ceux qui étaient spirituellement pauvres, dans cette région méprisée de la Galilée. En Luc 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est invité à prendre la parole, il va citer ces paroles d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile à ceux qui spirituellement sont dans l'ombre de la mort, ceux qui sont spirituellement pauvres. Il est venu libérer ceux qui sont captifs du péché et de la mort. C'est le contexte. C'est un ministère parmi ceux qui sont spirituellement pauvres. Mais deuxième grand point, ce ministère a besoin de travailleurs dévoués. Les miracles de guérison que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait attiraient de grandes foules, mais ces foules étaient instables. Il est vrai que la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, de sorte que la nouvelle au sujet des guérisons accomplies par le Seigneur Jésus-Christ circulait de manière rapide. Ces miracles, ces guérisons témoignaient que le Seigneur Jésus-Christ était un homme de Dieu, qu'il était au moins un prophète. Nicodème, par exemple, ce chef religieux, en Jean 3, verset 2, dit « Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Les miracles ont révélé le Seigneur Jésus au public, ils ont attiré de grandes foules. Le peuple a jugé le Seigneur Jésus comme au moins étant un prophète, un grand prophète. Mais le peuple s'est aussi révélé très instable dans ses opinions. En Jean 2, versets 23 et 24, il le dit ainsi, « Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Les foules étaient volages, elles suivaient Jésus, mais pas de la bonne façon, pas pour les bonnes raisons. Ils venaient par curiosité, ils venaient pour la guérison. Mais dès que c'était risqué de le suivre, il disparaissait. On se rappelle de ce passage, en Jean chapitre 6, versets 60 et suivants. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, qui peut écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter d'où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point, qui était celui qui le livrerait. Il ajoute, « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples, de ceux qui le suivaient, du moins extérieurement, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour attirer les foules. Il n'a jamais voulu guérir tous les malades ou nourrir tous les affamés. Il est venu inaugurer le royaume et faire et appeler à lui de véritables disciples. Le Seigneur Jésus est un enseignant itinérant, comme beaucoup de rabbins de l'époque. Aujourd'hui, les gens vont à l'école, ils apprennent en écoutant plusieurs enseignants. Mais à l'époque, c'était l'école qui venait au peuple sous la forme d'une personnalité qui pouvait rassembler des élèves, rassembler des disciples. Si les gens étaient attirés par un tel enseignant, ils s'attachaient à cet enseignant. Et parmi les Juifs, les disciples dévoués d'un rabbin allaient le suivre partout où il allait. Ils imitaient ses manières, ils mémorisaient ses principaux enseignements, mot pour mot. Mais le Seigneur Jésus n'a pas attendu que des disciples potentiels le choisissent. Oui, ses miracles étaient passionnants, mais sa mission semblait austère pour que les gens puissent le choisir eux-mêmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va appeler, qui va choisir ses disciples pour qu'ils soient avec lui tout le temps, pour qu'ils puissent témoigner de tout ce qu'il a fait. Il a formé un cercle plus large qui va parfois le suivre, mais pas toujours. Mais ici, il commence par choisir ses 12 qui allaient être ce cercle restreint. Il commence par deux ensembles de frères, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean. Et à la première lecture de ce passage, à partir du verset 18, quand Jésus appelle les premiers frères, Simon, donc Pierre et André, l'appel semble brusque. Il semble que Jésus repère ces étrangers, il les convoque et de manière brutale, ils ont quitté leur filet, leur bateau, leur famille, et ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une réaction assez décisive. Ils ont quitté leur gagne-pain, ils ont quitté leur famille. Le travail et la famille sont des choses qui sont importantes. Nous avons un devoir envers eux. Alors comment ces hommes pouvaient-ils les quitter si brusquement? Quand on compare les récits des quatre évangiles, On voit que la décision des disciples était frappante, mais pas irrationnelle. Les disciples avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois sur une période d'environ un an avant de commencer à le suivre. Tout d'abord, Jean-Baptiste avait dit à ses disciples qu'un plus grand que lui allait venir. Et plus tard, il a montré du doigt le Seigneur Jésus-Christ en leur disant « Mais voici l'agneau de Dieu. Voici ce que je voulais dire. C'est lui que vous devez suivre. » Ensuite, Jean a encouragé ses disciples à suivre le Seigneur Jésus-Christ et certains l'ont fait. André, par exemple, était parmi eux. Et c'est André qui a présenté Pierre à Jésus. Jean 1, verset 35 et suivant. Et Pierre, ensuite, Jésus a conduit Pierre et d'autres à une grande prise de poisson après une nuit de labeur. Il a appelé les premiers apôtres en leur donnant comme mission d'être des pêcheurs d'hommes. Et c'est le passage qui a été lu tout à l'heure en Luc chapitre 5. Jésus enseignait au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse était présente jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se retrouve au bord de l'eau. Il a vu Pierre dans son bateau. Il a donc demandé de pouvoir monter dans ce bateau pour pouvoir enseigner. Et quand il a fini de parler à la foule, Jésus s'est adressé à Pierre avec cet ordre apparemment absurde. « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre était pêcheur. Il savait où et quand pêcher. Mais il avait pêché toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Jésus était menuisier. Qu'est-ce qu'il savait de la pêche? Pourquoi Pierre devait-il croire Jésus quand il a dit que Pierre attraperait le poisson en plein jour, avec une foule bruyante, toujours présente? Pierre proteste. Luc 5, verset 5. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Notons que Pierre appelle le Seigneur Jésus « Maître ». Il indique que Pierre sait déjà, il reconnaît déjà l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ lui donne cet ordre de jeter les filets, Pierre le fait et il trouve une grande prise. Les poissons étaient si abondants que le filet était sur le point de casser. Les bateaux étaient sur le point de couler. Et Pierre reconnaît la main de Dieu. Il arrête son travail, il tombe à genoux, il s'incline devant le Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite, Luc 5, verset 8. La réponse de Pierre est essentiellement correcte, mais il tire une fausse conclusion. Oui, il sait, il a vu, il a reconnu la présence, la main de Dieu. Mais il conclut qu'il aurait dû fuir la sainte présence de Dieu, alors que Jésus lui dit non. Jésus le reprend, Jésus le relève. Il dit « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Luc 5, verset 10. Jésus connaissait déjà ces hommes depuis un certain temps. On le voit dans leur décision de lui laisser la barque, d'obéir à un ordre qui paraît étrange, mais ce sont encore des pêcheurs. Et le commandement que Jésus leur donne va les transformer. Ils voient que Jésus est à la fois Dieu avec nous, Emmanuel, mais il est aussi Dieu pour nous. Et donc ils peuvent faire confiance à Jésus et le suivre. Et l'appel à devenir des pêcheurs d'hommes demeure. En Jérémie 16, par exemple, Dieu scrute son peuple qui est dispersé. Et il dit ceci, Jérémie 16, verset 16, « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. » Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, des fentes, des rochers. Le Seigneur Jésus nous appelle encore à être des pêcheurs d'hommes, de faire des disciples. Ce n'est pas parce qu'une église est relativement visible que l'on doit s'attendre à ce que les hommes et les femmes viennent à nous. Jésus nous dit d'aller dans le monde, d'annoncer la parole, de faire des disciples, de rechercher les perdus. de tirer comme des pêcheurs, de tirer les hommes et les femmes hors de l'abîme pour les attraper dans le filet du royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus va assurer Pierre, André, Jacques et Jean de son amour et de ses soins, de son attention dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Et Dieu va donner aux pêcheurs une grande prise de poisson pour montrer qu'il va prendre soin d'eux, qu'il leur donnera une grande prise, car ils attirent les gens, non pas dans un filet, mais dans son royaume. Et le Seigneur nous montre aussi sa puissance et sa bonté dans un langage que nous pouvons comprendre. Par exemple, si on aime être en paix, Dieu peut nous toucher dans un moment de souffrance par un sentiment de calme, de repos en lui. Et ce sont des gestes doux de la part d'amis qui parlent à notre cœur. Il peut envoyer un ami avec une parole ou une action qui est réfléchie. Le Seigneur Jésus a certainement parlé la langue de Pierre. Et comme il appelait une bande de pêcheurs à devenir disciples à plein temps, il a envoyé une quantité de poissons pour montrer qu'il allait prendre soin d'eux. Il les a assurés de son amour, de ses soins. Et ensuite, il les a appelés à le suivre, à être ses disciples. Et en examinant l'appel que Jésus a lancé à ses premiers disciples, on doit garder à l'esprit deux principes. L'engagement des disciples à suivre est un acte de foi, mais c'est un acte de foi éclairé. Ce n'est pas une foi aveugle. Quand on s'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit comprendre ce que l'on fait. On doit compter le coup. Et une fois que nous comprenons l'appel, on doit ne pas retarder ou repousser. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Pierre et André, ils étaient en train de jeter leur filet. Jésus les a appelés, ils ont laissé tomber leur filet. Et ils l'ont suivi immédiatement. Et plus loin, lorsque Jésus a appelé Jacques et Jean, ils étaient dans leur barque avec leur père pour réparer leur filet. Apparemment, à la fin de cette nuit de pêche, décrite en Luc chapitre 5. Et quand Jésus a appelé, ils ont quitté leur père, ils ont quitté leurs affaires immédiatement. Le royaume de Dieu a besoin de serviteurs, de travailleurs dévoués. En général, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, même si certains le font. Le Seigneur a appelé les premiers disciples à un départ radical. Ils avaient besoin de voir tout ce que Jésus faisait, d'entendre tout ce que le Seigneur Jésus allait dire, afin de pouvoir plus tard proclamer, annoncer, enseigner, écrire les livres du Nouveau Testament, jeter les bases de l'Église. Mais si nous ne laissons rien physiquement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous devenons chrétiens, il y a une coupure avec la vie ancienne. Nous trouvons la joie, la satisfaction dans les choses nouvelles. Nous préférons passer du temps à être nourris spirituellement plutôt que de perdre son temps dans le monde. C'est vrai que les responsables d'église apprécient ces personnes qui viennent les voir en leur disant « S'il y a quelque chose que je peux faire, faites-le-moi savoir. » Formidable encouragement. Mais c'est encore mieux de prier et de consulter des gens qui nous connaissent pour pouvoir offrir nos services et de dire « Voici ce que je pourrais faire. À qui est-ce que je dois m'adresser pour commencer cela ?» Une petite remarque sur l'appel de Jésus à ses disciples. En Marc 1, verset 20, nous dit que Jacques et Jean ont quitté leur filet, mais ils n'ont pas abandonné leur père, parce qu'il y avait encore des serviteurs pour aider avec ce qui pouvait être une entreprise substantielle. Un disciple est prêt à tout quitter pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il peut avoir besoin de rompre toutes les relations, mais le disciple prend toujours soin de ses obligations familiales, comme il le peut. Le ministère parmi ceux qui sont spirituellement pauvres a besoin de travail dévoué, et nous sommes entourés de personnes qui sont spirituellement pauvres. Troisième grand point, l'ampleur de l'œuvre parmi ceux qui sont spirituellement pauvres. Et la dernière partie de l'introduction de Matthieu au ministère de Jésus résume l'étendue de cette œuvre. Verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et là, nous remarquons la portée de son travail. Il fait le tour de toute la Galilée. Pas une seule région en particulier. Les rabbins avaient l'habitude d'enseigner quelques disciples. Les hommes de Qumran, par exemple, se sont retirés dans le désert avec une poignée de ceux qui s'appelaient les purs. Mais le Seigneur Jésus-Christ est allé vers les foules et guérissait toutes sortes de maladies. Il exerçait son ministère dans tous les milieux. Il pouvait enseigner dans les synagogues, donner une instruction assez soutenue à tous ceux qui étaient présents. Mais il pouvait aussi enseigner, proclamer l'évangile du royaume, s'adresser au public, s'adresser à des foules. Et en conséquence, toutes sortes de personnes sont venues à lui, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il guérissait ceux qui avaient des maladies qu'on appelle ordinaires, mais aussi des maladies extraordinaires. Il a guéri les Juifs de Jérusalem, de Judée. Il a guéri les autres de la Galilée, des territoires païens, où la plupart des gens savaient peu ou rien au sujet du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent être attirées pour enquêter au sujet des revendications du Seigneur Jésus, mais ces personnes sont également ignorantes encore aujourd'hui. Certaines personnes, par contre, par exemple, avec qui nous avons des contacts, peuvent nous demander, mais est-ce que je peux venir au culte un dimanche matin? Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles sont dans l'ignorance. C'est la réalité aujourd'hui, comme c'était au temps du Seigneur Jésus. Les gens sont dans l'ignorance. L'appel à être des disciples est encore d'actualité. Jésus veut transformer des personnes en disciples. Il appelle ceux qui sont spirituellement pauvres. Il appelle des gens, non pas à une cause ou à une éthique, mais il les appelle à lui-même. Il donne l'assurance qu'il est bien plus qu'un simple enseignant. Il est le bon maître, le Seigneur, qui va prendre soin de ses disciples, qui va répondre à leurs besoins. L'ampleur de l'œuvre est plus grande que jamais. Elle exige un dévouement sans faille. Et pourtant, on doit admettre qu'on ressemble très souvent à ces végétariens qui mangent de la viande. On veut revendiquer un dévouement, la discipline du vrai végétarien ou du vrai disciple, mais on veut aussi définir le dévouement dans nos propres termes. On aimerait être des végétariens mangeurs de viande. Dieu le sait. Dieu pardonne nos échecs. Mais il nous appelle à être des disciples cohérents. Des disciples à 100%. Des disciples qui consacrent toute leur vie à le suivre. Notre esprit, notre volonté, nos émotions. Que tout lui soit consacré. Qu'il n'y ait pas cette personnalisation, mais que nous soyons entièrement consacrés. comme le dit ce cantique, prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice. Qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon sauveur. Ce sont les paroles du cantique 285 et que cela soit aussi notre prière. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.